Apéro spécial débrief du Game 3.
Il y avait 2-0, il y a 2-1. Spurs, Cornette, la team Cornette est encore en vie. Puisque on le sait bien, quand il y a 3-0, c'est pas encore fini, mais c'est fini en fait. Quand il y a 3-0, selon les statistiques historiques. Hein,
Absolument.
Voilà, hein, sur le papier, c'est pas fini, mais on sait que ça revient jamais.
Tout à
Donc,
fait.
Donc il y a 2-1.
Eh oui, ouais. Ça y est, c'est bon, on peut le dire. Ce n'est pas un sweep qui va se passer, loin de là. On a même une série, si vous le voulez. Installez-vous tranquillou.
Les Knicks ont perdu en 2026.
Les Knicks ont perdu pour la première fois depuis 2001.
Combien ? Non, mais c'était combien ? C'est...
Ça faisait 45 jours.
Putain, pas mal.
Ça faisait depuis le
13
game...
matchs.
Ça faisait depuis le game 3 13 face aux Hawks. 13
matchs.
Victoires de suite. Ouais. Deuxième plus longue série de l'histoire des playoffs modernes. Oui,
propre.
Les Spurs ont gagné. Alex, désolé de te rappeler des mauvais souvenirs.
Dis-moi.
Finale 1993, la dernière fois qu'on a vu des équipes remporter exclusivement les matchs à l'extérieur sur les premiers matchs de la série.
Ah oui, c'est vrai qu'en 93, les Suns ont perdu les deux premiers matchs à la maison avant de gagner le match 3 à Chicago, match 3 que si vous n'avez pas regardé,
il faut regarder.
C'est un classique. C'est plus qu'un classique, c'est un classique parmi les classiques.
Absolument.
Ça rentre dans un top 10. C'est une dinguerie.
Si vous gagnez,
on a fait ce top 10 d'ailleurs. Il me semble qu'on l'a fait les plus grands matchs de finale ou de playoff.
Ou de playoff,
ouais. Ouais, un truc comme ça. Me dit quelque chose, ça.
On va s'y repencher.
Non, mais ça, on l'a fait, je veux dire.
Ah, on l'a
je
fait.
Je suis quasiment sûr d'avoir parlé du Game 3 de 93.
De Barclay et compagnie, interception.
Et si vous voulez d'autres anecdotes sur les Suns menaient 2-0 en finale NBA en 2021. Bon, c'était à la maison. Ils avaient gagné deux fois la maison. Ils n'avaient pas gagné deux fois à l'extérieur.
Attention, il y a Yanis dans ton rétro.
Et il y a Yanis dans ton rétro, mais en fait, c'est que Wemby, voir Stephen Castle dans ton rétro, c'est dangereux.
Ah, tout à
Donc,
fait.
Donc, ne festoyons pas trop vite côté Knicks. C'est pas que je me mette chez les Knicks, hein, mais je dis festoyez pas trop vite. Parce que, bah voilà, il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, une équipe menait 2-0 et elle a perdu les finales.
C'est ce qui fait que tout le monde zoome sur la tête de Mikal Bridges en disant vous êtes en confiance.
Oui, c'est vrai que Mikal, c'est le dénominateur commun.
Vous êtes en confiance. Oui, il y a 0-0. Pour les gens qui s'installent, évidemment, obligés de démarrer avec l'info principale, victoire des Spurs hier soir, 115 à 111, troisième match serré. Alex, je t'en parlais juste avant qu'on démarre le tournage. Pour le moment, même si les physionomies sont très différentes, on n'a pas de blowout dans ces finales. On a des matchs physiques, engagés et serrés.
Physique, engagé, serré, avec des arbitres qui sont mis dans des corners, avec des coachs qui posent des très bons challenges, avec des décisions arbitrales. Le game 2, vous l'avez débriefé avec Robin, on va pas revenir dessus. Moi, j'ai trouvé que le game 3, c'était mieux. Mieux que le game 2, je trouve. Je trouve qu'il y avait moins de décisions. On était là genre, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a eu en fait, faut dire aussi que les coachs les aident parce qu'il y a eu les bons challenges au bon moment.
Pour rattraper les calls.
Des calls chelous.
Très chelous.
Des calls chelous, mais au moins, il y a challenge, le call, l'arbitre il va regarder et il change son call. Mm-hmm. Donc, ça fait passer la pilule. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de pilule, si tu veux. Et le coach, bon, moi je trouve qu'on devrait garder son challenge ad vitam tant qu'on ne rate pas.
Ah oui. Perso, j'ai raison.
Vu le niveau de l'arbitrage, ce serait justifié.
Tout à fait.
Et donc, ouais. Ça joue physique. Ça laisse jouer parfois. Parfois, ça siffle bizarre, mais dans l'ensemble.
C'est intense. Hein.
C'est intense. Rythme, gros rythme. Deux équipes, l'opposition de style, elle est là, elle est réelle. Là, hier, encore plus que les deux premiers matchs, j'ai trouvé, moi. J'ai trouvé encore plus. C'est-à-dire que vraiment, hier, on a vu, notamment, on va en reparler, mais la deuxième mi-temps des Spurs. La deuxième mi-temps des Spurs, défensivement, ils sont relous.
Ouais.
Ah, ils sont très embêtants. Ouais. Après, c'est de chier dessus dans le deuxième quart. Donc, c'est toujours pareil. Hein.
Ouais,
mais là,
sûr.
On a bien eu l'opposition de style. C'est-à-dire qu'on a... On a bien vu les moyens offensifs incroyables d'Enix. Là, Anunobi était en feu. Chamet, il peut mettre des gros tirs. Josh Hart, n'importe quoi. On voit bien, là, t'as même pas un très bon Karl Anthony Towns. Qu'est-ce que
c'est son pire match.
C'est son pire match depuis le début des finales. Eh ben, c'est pas grave. L'attaque d'Enix, ils sont là quand même face à une défense des Spurs qui, je le répète, vraiment a fait un effort phénoménal en deuxième mi-temps.
Ouais.
Et qui, contrairement aux deux premiers matchs, où là aussi on en avait parlé en preview, deux premiers matchs, match serré, fin de match, il y a eu du choke de la part des Spurs. Là, ils n'ont pas rigolé, ils ont fait le taf, à part Keldon Johnson, là je disais en off à Bastien, qui rate des lancers importants, mais ça n'a pas d'incidence, ils ont gagné le match quand même.
Rein solide, ces Spurs là.
Ouais. Voilà, attends, le Castle Wemby, les deux meilleurs joueurs sur le terrain étaient côté Spurs hier, hein, sur le match 3 en tout cas.
Et tu seras choqué comme moi d'apprendre que lorsque les deux meilleurs joueurs des Spurs sont au rendez-vous en même temps dans un match de finale NBA, tu augmentes tes chances de remporter la rencontre.
Abonnez-vous, hein, mettez un pouce.
N'hésitez pas. Ouais. Avant qu'on démarre, évidemment, je fais juste un petit coucou à Adrien, à Gilles, à Vince. Et Alex qui était évidemment dans la partition pour
quel beau t-shirt,
m'envoyer
ma foi.
Cet exceptionnel t-shirt de Luke Cornett. J'ai annoncé à Adrien en DM, je le porte jusqu'à la prochaine défaite des Spurs.
Faut le laver quand même.
Ma chérie, l'été va être très long. Je ne le lave pas. On y va. Victoire des Spurs avec ce t-shirt.
T'as le temps de le laver entre les matchs. Hein.
Mais oui, mais après, on va
conclure. Après, c'est pas drôle.
Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est très content pour Nico Vrigno qui va pouvoir partir à San Antonio ce week-end.
Ouais, vous avez vu le gros jeu concours là.
On en avait trollé avec Robin. On disait genre, au secours, si ça se trouve, le jeu concours, il va pas pouvoir avoir lieu. Game 5, pouvez-vous partir?
Il y a quand même un gagnant qui va pouvoir emmener un pote ou une potesse.
Absolument.
Et il le découvre là maintenant. On envoie aussi Nico qui va nous faire des images, du contenu sur place à San Antonio. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y aura de l'ambiance.
À San Antonio ?
Ouais. Parce que dans tous les cas, soit t'es à 3-1, t'es dos au mur.
Soit il y a 2-2.
Soit il y a 2-2 et voilà.
Tout à fait. Donc c'est officiel, il va bien y avoir un retour à San Antonio dans cette série. On ne savait pas, après le 2-0 Knicks, que ça allait donner. Et alors là, bonjour.
C'était un peu la stressante hein, quand même.
Ah bah là, moi j'avais la coulante.
On est d'accord.
On va replacer le contexte. Hier, lorsqu'on démarre ce Game 3, on débarque à New York. La ville est en apnée totale. San Antonio, New York est prêt à exploser. Et on a quand même, il faut le dire, Alex, un scénario assez particulier parce que le cadre de sécurité autour de ce match est très spécial. On en va en parler juste rapidement. C'est le match auquel il est annoncé que Donald Trump va être présent avec James Dolan dans la loge, avec des micro-vitres autour. Et donc, on apprend sur les réseaux sociaux que rien que déjà pour accéder à la salle, c'est une ambiance, j'en parle parce que dès l'hymne national, ça envoie. Hein. Là, l'ambiance est très spéciale. C'est pas juste un match de finale NBA comme ça. Hein. Ça a quand même été dès l'hymne national en mode, tu sens que la tension était énorme. Et d'ailleurs, sur le parquet, dès les premières actions, tu sens que les gars ont les.
Il s'est fait siffler, enfin huer quand il est passé sur le ouais, sur le Jumbotron. Ouais, bien sûr. Évidemment, du coup, le périmètre de sécurité était complètement différent.
Les joueurs en ont parlé, ouais.
Ouais, ils ont annulé des watching parties autour du Madison Square Garden. Bon, ils en ont fait une grosse un peu plus loin.
Tout à fait.
Voilà. Effectivement, Donald Trump, bon, bah, dans l'audience new-yorkaise, fan new-yorkaise, il a pas que des, comment dire, des adorateurs.
Je te confirme.
Donc voilà. Après.
Non, bah après c'est juste le détail par rapport à la sécurité du match. En fait, on a démarré dans un cadre où même les joueurs des Spurs disaient. Bon, dès qu'on arrive, il y a triple quadruple check quoi.
De toute façon, ce match, je veux dire, nous on n'aurait pas pu se payer un billet, même un billet de merde en haut du truc. Le celebrity row là, le nombre de gens. Alors là, il y avait tous les anciens joueurs d'Enix. Hein, non mais genre vraiment, c'est, à part Charles Oakley évidemment.
Il y avait Larry Johnson. Ça me fait penser à toi, Larry Johnson était là.
Ah, Larry Johnson, il est tout le temps là à chaque fois. Ouais, Larry Johnson. Non mais là ils sont allés chercher bien plus loin. Il y avait Bill Bradley qui est pas tout le temps là et tout. Bill Bradley qui a été ancien.
Jeremy Lin
et tout. Il y avait Eli Manning. Il y avait tout un tas de footballeurs foot US, hockeyeurs et baseball acteurs. Laisse tomber, il y avait plein d'acteurs que je connaissais même pas. Caméras, des machins et tout, incroyable et tout. Putain.
Bah, ce sont des légendes new-yorkaises, quoi. C'est quand tu commences à faire NYPD et compagnie. Bon, bah là.
Pas forcément, il y a que ces gens-là qui ont les moyens de se payer la place. De toute façon, la place bord-terrain, bon, laisse tomber le prix et tout, c'était n'importe quoi. Il y avait quand même une ambiance dans le Madison Square Garden, j'ai trouvé.
Oui.
Il y avait quand même le feu, il y avait quand même sur les gros paniers, notamment, on va en reparler, mais dans le deuxième quart, quand les Knicks prennent totalement feu et que ça commence à chauffer, je veux dire, dans le deuxième quart, les Knicks vont mettre 42 points quand même, hein, dans le quart. Hein. Donc là, c'est après avoir pris. 11, combien il y a dans le premier?
Ils ont moins 11. Quart, à la fin du premier quart temps.
Oh bah non, mais remonte là, tu dois avoir un truc quart par quart là, tu t'embêtes.
Quart par temps,
33-22. Ouais. Donc 11 points, voilà. Bref, donc là, la salle chauffe et tout, machin, donc ça fait vraiment plaisir, même si évidemment cette salle va se faire un petit peu climatiser en fin de match. Mais là, ça n'a rien à voir avec qui est dans le public ou pas. Ça a à voir avec Victor Wembanyama, Stephen Castle et leurs copains.
Ça fait.
Mais moi, j'ai trouvé ça spécial. Mais spécial, voilà, bah, y a le président des États-Unis qui est dans la salle. Donc, il y a sécurité différente, tout. Tu sens que C'est un match où New York attendait aussi, au-delà même du côté celebrity, hero, politique, machin et tout. C'est New York, j'ai 27 ans. Ça faisait 27 ans qu'ils n'avaient pas vu.
27 ans qu'il n'y avait pas eu de finale NBA, bien sûr.
Moi, j'avoue, je ne suis pas fan des Knicks. Quand j'ai vu la petite vidéo des mecs qui installent le parquet avec le trophée au milieu, chose, avec le côté Knicks, genre, putain, oui, c'est vrai.
C'est vrai que c'est réel.
C'est vrai que c'est, ça y est.
C'est vrai que c'est,
là, c'est aujourd'hui.
D'ailleurs, merci le retour hein, des logo trophée sur le parquet. Hein, parce que
c'est bien
années,
ça.
Ah, oui, bien,
bien
sûr. Ouais. Là, quand tu as des mecs qui jouent du milieu du terrain, tu te dis, genre, à l'échauffement, tu te dis, ah, c'est réel, c'est concret. En fait, je voulais démarrer par ça parce que c'est important de se rendre compte, pour ceux peut-être qui n'ont pas vu le match, que dès les 5 premières possessions, moi, je suis à 8000 km. J'ai les mains qui suent, mes chaussettes, c'est le Niagara.
Ouais, surtout qu'il faut voir l'entame de match en plus. Hein.
Ben oui, mais en fait.
OMB.
Ouais, tout à fait. Enfin... Mais côté Knicks,
oui.
Sur les 3 premières possessions, il y a 2 ballons perdus, thématique qui va revenir.
Ah oui.
Plus un shoot loupé. Enfin, tu sens que le premier mec.
Niquette côté Knicks.
Tout à fait. Le premier mec qui débloque un peu le verrou, c'est Josh Hart à 3 points.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on avait vu côté Knicks, là, beaucoup de pression sur ce match. Si tu mènes 3-0, bon bah à ce moment-là, tout le monde se le disait, hein, off, hein, tu vas pas revenir du tout, c'est mort. Et côté San Antonio, l'obligation de devoir l'emporter, sachant qu'il y avait des joueurs qui continuaient à dire on s'est planté sur les 2 premiers matchs, mais on pense encore. Il y a une espèce de confiance assez jeune.
Il y avait même des critiques là-dessus.
Ah ouais.
Parce que c'était déjà un peu le cas entre le Game 1 et le Game 2, en mode Castle ou MB sans.
C'est pas arrogant, c'est.
Un peu. Non, un peu, mais c'est
une confiance compétitive.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, ok, c'est de l'arrogance. Mais, enfin, je veux dire, non, mais c'est pas grave. C'est pas. L'arrogance, si tu la pousses trop loin, ça te joue des tours.
C'est ça.
Mais si t'en as pas un minimum et que t'as pas un minimum de prétention et de confiance en toi, c'est compliqué d'être en NBA, en finale NBA. Tu vois, genre, bien sûr, tu vas pas dire à 2-0 ou à 1-0, tu vas pas dire, ah putain, ils sont trop forts pour nous. Qu'est-ce que c'est ? Évidemment que tu vas dire. Donc là, ils ont juste, c'est juste les mots choisis, le côté si je joue à mon niveau normal, on est bon, quoi, tu vois. Genre, ça, c'est un peu.
Avant le match.
Et la défaite du Game 2 avait fait mal dans les têtes parce qu'il y a Choke, il y a Wemby qui envoie une passe dans le dos de Castle, ça merde, encore Brunson qui leur met des gros tirs alors qu'il fait pas un bon match, et tu perds, enfin, il fait pas un bon match, il fait pas un bon match au scoring complet et tout. Tu perds encore un match à la maison dans lequel les Knicks peuvent tout à fait se dire bon. On peut même faire encore mieux, tu vois.
Bien sûr.
Donc, ouais, je trouve, il faut le dire, l'entame de match à ce niveau-là des Spurs, puisqu'en général, on commence par l'entame.
Bien sûr.
L'entame, elle est bonne.
Bah, l'entame,
agressivité,
elle est
défense bien dure. On pousse les mecs à la faute. Wemby chaud tout de suite qui met des paniers.
C'est ce que j'allais franchement, dire. C'est sur le premier quart de San Antonio, il y a plein de choses qui sont très positives, mais j'ai envie de te dire, j'étais devant le match avec des copains sur Twitter, c'était en mode ah non, hein, pas le même premier quart excellent pour ensuite se caguer dessus. Hein, parce que le premier quart des Spurs, pour la 3e fois consécutive, il est excellent. Alors avec des physionomies différentes,
non, mais là, vraiment,
puisqu'on avait eu du très gros Dylan Harper.
C'est impeccable.
C'est ça, on avait eu du très gros Dylan Harper au Game 1. Là, on est entré de banc, là, il met 10 points dans le premier quart-temps. Game 2, c'était un peu plus collectif, et puis il y avait du Fox qui était sorti de sa boîte. Là, la grosse différence pour moi majeure, Alex, c'est quand même 1. Stephen Castle et Wemby donnent tout de suite le ton en tant que leader. Et de 2, on arrête les conneries à l'extérieur. On va aller dans la raquette. Il y a certes de la réussite à 3 points pour les Spurs, mais Steph Castle et Wemby vont tout de suite à l'arceau. Pour
oui,
donner ton.
Oui.
Et c'était une des clés dont on parlait dans la série.
Steph Castle, Wemby à l'arceau. Et même de l'autre côté du terrain, j'ai trouvé ça intéressant. Le côté agressif assez haut tout le match. Genre là, les efforts, la densité physique, les efforts physiques proposés par les Spurs aussi côté défensif sont absolument énormes. Et c'est d'ailleurs premier quart. Moi d'ailleurs, c'est ça qui m'a le plus je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus surpris du match, c'est le contraste entre le premier quart et le deuxième quart. C'est-à-dire que le premier quart, il est vraiment impeccable, défense dure, comme tu dis, ça va sous le cercle, ça rigole pas. Mitch Johnson opère quelques petits changements habituels, ses rotations habituelles, ça change rien, ça continue. Les Spurs sont devant, je le disais tout à l'heure, plus 11 et tout. Et dans le deuxième quart, il y a vraiment un côté genre avalanche, Knicks, tout rentre, défense pas si dégueu, même si.
Mais il y a des Ave Maria rentrés dans tous les sens.
Exactement, c'est surtout l'attaque des Knicks qui est complètement impressionnante dans le deuxième quart où il n'y a pas grand chose à faire. Il y a quelques petites erreurs, il y a quelques trucs, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu veux faire quand les types attaquent comme ça et que ça shoot comme ça, je veux dire.
Rien. Rien, tout à fait.
OG Anunobi, c'était Ray Allen.
Bah, c'est ça. En fait, t'as OG Anunobi qui rend des shoots contestés, mais avec
tout
une
le match,
facilité.
C'est lui qui met le gros stress à la fin en mettant
bien
3 points dans le corner.
Et un mid-range avant,
fait un
côté
match,
gauche.
Oui, OG Anunobi, bah, fait un match très sérieux.
En mode, on l'a souvent surnommé Baby Kawhi. Hier soir, c'était Kawhi Leonard.
Là, c'était Kawhi Leonard. Tout à fait,
il
d'accord.
Il était exceptionnel. T'as raison, OG Anunobi met des gros shoots. Alvarado sorti de banc, ça envoie des drives sur Wemby, bonjour.
Oui, bien.
Avec un niveau de difficulté, ça y va. Hein. Josh
Hart. Petit point de Clarkson aussi. Hein.
Et merci, j'allais dire. John Clarkson, qui te met 5 points en première mi-temps, là,
en
sortie
de banc. En tout cas, dans le deuxième quart, ouais, ouais.
Il t'en met 5.
Ouais,
très,
je
très, très bon.
Bien en train de mettre des paniers.
Alvarado et Clarkson font le boulot. Et tu as en effet des minutes qui sont excellentes sans Brunson. C'est-à-dire que force aussi à Mike Brown. Brunson, on va en reparler. Non seulement il y a des soucis de faute, mais en plus bah, il a un joli tabassage physique sur lui. Tu as tout de suite Mike Brown qui sait sur quel bouton appuyer. Clarkson avait eu 0 minute sur le game 2. Rentre et mets-nous des buckets. T'as raison, c'est une avalanche en fait. Hein, l'attaque des Knicks sur ce
quart. Avalanche dans le deuxième quart. 42 points marqués par les Knicks, seulement 24 encaissés. Donc de moins 11, tu passes à plus 7. Et tu rentres au vestiaire. Il y a un match, un scoring assez haut finalement. Il y a 64 à 57 à la mi-temps.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc ça, sur le papier, 64-57 à la mi-temps, c'est un Knicks game.
Ah, c'est un match pour les Knicks.
Hein, on est d'accord. Absolument. Un gros rythme comme ça. Alors que le premier quart, c'était vraiment parfait ce qu'il faut aux Spurs. Mais là, avec le deuxième quart, tu te dis ouh là 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 là.
Clairement.
Et c'est là que les Spurs vont pondre leur meilleur quart des finales, selon moi.
Tout à fait.
Le troisième quart, là, c'est parfait, c'est impeccable. Tu encaisses un peu trop de points sur quelques petites possession à la con, mais
oui.
Le rythme est donné, tu vas réussir à repasser devant alors que tu étais à moins 7 en début de quart. Ciblage de Brunson.
Alors oui,
en dès effet, la sortie du vestiaire, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ils lui font faire, c'est là qu'il a des vrais problèmes de faute d'ailleurs.
C'est ça.
C'est dans le troisième, là, ils lui font faire sa quatrième.
J'avoue que sur le début du troisième quart, moi, comme beaucoup de gens qui regardent le match, t'as un peu les pétoches et tu te dis attention, ça peut passer à 3-0 parce que les Knicks, pardon, mais. Les Spurs à la mi-temps, j'avais regardé, je crois que je tweet à un moment qu'ils sont à 52% au tir, 40% à 3 points, ils ont perdu que 4 ballons. Avec un gros Wemby et un gros Castle.
Comment
excusez-moi
faire
du
mieux
peu, mais normalement, ça, 97 fois sur 100, c'est Spurs win. Tu parles en face, les mecs, ils ont un Karl-Anthony Towns qui n'a même pas fait sa bonne mi-temps. Brunson qui a des soucis de faute, les mecs mènent de 7 points. Et c'est marrant que tu mentionnes tout
il
de suite.
Il n'a pas de soucis de faute à la mi-temps encore.
Non, il n'a pas encore de soucis de faute, hein, c'est ouais. Pour Brunson, ouais. Mais ouais. Il a des minutes sur lesquelles il a du repos et où les Knicks gagnent les minutes alors que Brunson est sur le banc, ce qui est parfois un
c'est
souci.
C'est Anunobi et Hart. Et aussi, même si ça se voit moins dans la feuille, le très bon travail de bouchage de trous et défensif de Bridges.
Hein. Oui, tout à fait.
Mais après, il score moins, hein, ça c'est sûr.
C'est très compliqué. Sur le début du troisième quart, il y a certains fans qui sont encore à la pissotière et en train d'aller chercher leur hot dog. Sur les deux premières minutes, les Spurs recollent tout de suite.
Oui,
ça passe pas à plus 9, plus 10,
non,
ça recolle tout de suite.
Ça
à
revient
égal.
Et d'ailleurs, ça va être ça. Ils vont recoller, les Knicks vont les redistancer un petit peu, ils vont re-recoller ouais. Et petit à petit, ils vont finir par passer devant. Je veux dire, il y a moins 7, ils vont gagner ce quart de 8 en scorant. Je en parle parce que à contrario dont on va parler après du quatrième quart, mais ils vont gagner ce quart de plus 8 en scorant beaucoup, en scorant 35 points, ce qui est pas mal tu vois dans un quart,
oui.
Et en encaissant quand même 27 hein, donc c'est pas non plus un quart minable offensivement de la part d'Enix.
Ouais, tout à fait.
Et dans le quatrième quart, on va parler d'une ambiance complètement différente, et moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est là les Spurs ont montré un visage qu'on avait pas assez bien vu dans les deux premiers matchs. Et Ciblage de Brunson.
Ah bah ouais.
J'ai Karl-Anthony Towns, je drive.
Ah ouais.
Ciblage de Brunson. Il n'avait pas du tout assez ciblé Brunson et Towns offensivement sur les deux premiers matchs.
Moi, t'en souviens, j'en parlais, j'étais fou de rage. Genre, le niveau de choix était pas bon hein, côté Spurs.
Non,
là,
et
t'as
comme,
raison, ils le font bien.
Et comme Hart, Anunobi et par exemple Bridges ou même un mec comme Chamet et tout, eux sont très concentrés et bien aiguisés et sont là pour essayer de switcher, d'empêcher justement leurs deux patrons de se faire cibler. Ça avait très bien marché sur les deux premiers matchs. Et là, dans ce troisième quart, via Harper et via Castle principalement, après Wemby fait des gros tirs aussi, mais Wemby il est un peu moins dans la création aussi et c'est mieux.
Oui.
Il laisse plus la création à ses guards. Il colle des gros écrans. Il roule vers le cercle. On essaye de le servir au-dessus. Ah, il va en mettre un absolument incroyable d'une main tout en touché et tout, alors qu'il y a 4 mecs sur lui. Là. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça lui va bien. Et c'est beaucoup plus emmerdant aussi pour la défense d'Enix. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a Wemby à la création et qu'il dribble, en fait, Karl Anthony Towns, il peut un peu rester devant et tout. Quand il y a un vrai switch et Karl Anthony Towns se fait driver par Dylan Harper,
oui,
il y a panier souvent ou faute.
Tout à fait. L'agressivité des Spurs, elle est au rendez-vous là sur ce troisième quart, notamment au niveau offensif, puisque
là, Brunson prend sa quatrième et qui sort et que du coup tu peux pusher quoi.
Tout à fait. Brunson a des soucis de faute et tu as ce qui va devenir après un sujet dont Mike Brown va parler par la suite. Hein. Tu as des Spurs qui vont provoquer un énorme niveau de lancers francs sur la seconde mi-temps. Je crois qu'il y a 24 lancers pour les Spurs, 8 seulement pour les Knicks. En étant agressif, c'est-à-dire que oui, il y a des calls où tu te dis ouais, putain, qu'est-ce qui se passe, Mark Davis, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'on a de tout. Hein. Moi, je fais juste une parenthèse là-dessus. Il y a un moment où les Spurs sont 6 sur le terrain, il n'y a pas de faute technique qui est sifflée, alors qu'il pourrait avoir lancé pour Enix. Il y a eu des hooks dans tous les sens, ça laisse jouer physique, mais sur ce troisième quart, on en vient en fait à un point où je me souviens être devant le match, il reste 4 minutes à jouer. Wemby va sur le banc, Brunson a les 4 fautes, et là c'est, moi j'avoue que c'est peut-être un des moments les plus importants pour moi de cette rencontre, c'est, on va jouer avec les équipes C quoi, B et C,
B,
et parfois il y a même d'autres gars qui sont sur le banc, donc t'as des line-up, vraiment moi j'étais là genre en mode, oula attention, et ce sont des minutes sur lesquelles les Spurs ne perdent pas, et où les Knicks n'arrivent pas à repasser devant, et où l'attaque stagne, cette attaque qui est pourtant excellente en première mi-temps, elle n'arrive pas à faire la différence sur cette fin de troisième quart, là où les Knicks, jusque-là, ont toujours montré qu'ils avaient des solutions. Ça ne passe pas devant les Spurs.
Ouais, puis les Spurs, ils ont montré aussi que, c'est sûr, il y a eu une discussion à propos du rebond aussi, où le staff a forcément essayé de responsabiliser les guards en leur disant, les gars, vous êtes athlétiques, vous êtes jeunes, faut venir aider.
Ah, Dylan Harper.
Dylan Harper, il a bien compris le message. Même Cassel, hein. Cassel, bien, hein, mais Dylan Harper,
neuf rebonds.
Dylan Harper. C'est le meilleur rebondeur en nombre de son équipe hier.
Tout à fait.
Ah ouais, il a pas eu de réussite au tir. Hein.
Non, mais tout à fait.
Après, le seul 3 points qu'il met, il est gros. Mais voilà.
Bonnes minutes de Hornets.
Ouais.
Bonnes minutes là sur cette fin
tout
de troisième quart.
Honnête.
Parce que notamment quand les Knicks sont dans la pénalité, parce qu'on évite dans le bonus, il y a du rebond offensif de gratter par Luke Hornets. Il finit au sol et tu arrives à gratter quelques points. Pour autant, ces Spurs continuent à tendre le bâton parce qu'on en parlait tous les deux en off. Elle est lancée. Les rebonds offensifs et les lancers dont tu viens de parler là.
Ouais, il y a une ou deux pertes de balles idiotes, même si les Spurs ne perdent pas beaucoup de ballons sur ce match. Hein,
c'est plus les Knicks qui font des pertes de balles atroces.
Et il y a Keldon Johnson qui rate, qui fait 1 sur 4 au lancer, là vraiment à un moment où ça fait du mal. Sinon, dans l'ensemble, les lancers, ça a été très propre côté Spurs, mais vraiment Keldon Johnson, ça se voit fort là, ce qu'il rate.
Bah, c'est ça, c'est que sur un match serré, quand tu es à 25 sur 32 quand même, moi je me suis dit, j'avoue, Alex, dans la fin de match, je me suis dit, oh là. Qu'on n'en vienne pas à regretter que t'aies laissé des points aussi faciles.
Bien sûr, mais sinon c'est un 24 sur 28 quoi, sans Keldon.
Oui, c'est ça.
Donc c'est quand même, tu vois, genre c'est le 1 sur 4 de Keldon qui fait du mal, parce que sinon t'as quoi, c'est Champagny qui en rate
un. Non, c'est chacun un, c'est
ratin.
Cassel, Champagny,
Vassel, il fait 2 sur 3, tu vois, genre voilà.
Bien sûr. Quand on démarre le quatrième quart-temps,
donc là il y a plus 1,
il y a
92, 91,
c'est ça. Et pourtant, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on est sur un score qui est plutôt pro-Nix. Enfin, je veux dire, quand on entame
encore
un dernier carton à domicile,
ouais.
T'y es bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment, avant qu'on revienne sur le fameux 3+1 qui est overturn, tu sais, il y a toute cette séquence là, fin de match. Je trouve que Mike Brown, pour moi, a peut-être mis un petit peu trop de temps à remettre Brunson sur le terrain.
Peut-être.
Parce que notamment quand l'attaque, ouais, tout à fait, mais quand l'attaque a vraiment été en difficulté, là je trouve que c'est Nix et les joueurs en ont parlé, ils n'ont pas su trouver les solutions offensives et les Spurs ont aussi bien défendu.
C'est vrai, c'est les Spurs qui ont tiré les premiers.
Oui.
Il y avait plus 1, ils ont tout de suite fait monter, donc 92-91, que je dis pas de bêtises.
Bah, ça monte à 5,
ils ont fait
6,
monter à 7, ouais. 6-7, 98-91. Ça dure un peu longtemps, il y a un petit moment un peu de flottement, je suis d'accord, en début de quatrième quart. Il y a aussi un autre point très important, c'est que les Spurs se retrouvent très vite dans le bonus, c'est-à-dire que les Knicks ont très vite le nombre de fautes, 5 fautes. Enfin, tu vois,
il y a 8 minutes à jouer, ils sont dans le bonus.
Voilà, et ça, c'est pas du tout anodin. J'ai bien aimé aussi, toujours pour revenir au sujet du rebond et du verrouillage et des essais. Alors peut-être que je l'avais raté sur les matchs précédents, mais je trouve que Mitch Johnson a joué des vraies minutes avec un Harper Castle et des vrais ailiers, Champagny, Keldon et par exemple Wemby. Mm-hmm. Il n'avait pas tant fait que ça, hein, je pense, sur les matchs d'avant. Souvent, c'est Champagny ou Keldon. Très souvent. Et tu joues avec des Vassal ou des Castle qui sont en 3, en fonction Fox Warper et tout de ce que tu mets. Mm-hmm. Un peu plus petit. Mm-hmm. Athlétique, hein, mais plus petit. Là, Champagny est plus grand, Keldon est grand et costaud.
Tout à fait, Keldon est envoyé beaucoup sur 4.
Keldon envoyé sur 4, ce qui permet à Wemby bah, de veiller, de patrouiller. Et alors, hein, Landry Shamet, qu'est-ce qu'il en pense? Parce qu'à un moment donné, il a essayé de driver, c'est un peu plus loin dans le match.
Hein. Alors tout à fait, non,
il a essayé
raison.
De driver, il n'est pas allé de l'autre côté du cercle. Bah, et...
Alors autant mais pour oui, Shamet, c'est vrai qu'il se fait cueillir.
Oui, il se fait cueillir.
Autant par contre de l'autre côté, Josh Hart fait payer.
Ouais.
C'est-à-dire que
ouais.
quand Wemby utilisait un roamer, on en avait parlé en tout début de série. Josh Hart en avait rigolé en disant ah bah si vous mettez Wemby sur moi, j'estime que je suis un des meilleurs attaquants de la planète.
Il a fait mal.
Et. Putain, quand Josh Hart, pour moi hier soir c'est le Josh Hart au Ginobili Game, c'est celui qu'ils vont prendre grâce à leur roleplayer. Parce que là, là, Josh Hart, il est à combien à 3 points?
Il est à 4 sur 7.
Au secours.
Ouais, c'est
et
bien.
Tout, un corner, c'est tête, super. 45 et tout. Mais oui, t'as raison, Keldon est utilisé parfois pour apporter cette agressivité physique. Avec un peu de Champagny qui peut switcher aussi sur Brunson, c'est un délux.
C'est un peu plus grand quoi, ouais. comme 5, c'est un peu plus grand côté Spurs, oui. que c'est un peu le... Point faible, après ils sont en finale NBA, ça va, hein. Les mecs ont 18 ans de moyenne d'âge, ça va. Mais y a, c'est un peu le point faible, c'est là par exemple ça se voit face à Senix qui ont Anunobi, Mikal est quand même assez long, il a des longs bras, il fait 2 mètres et tout. Bon, Josh Hart est plus petit, mais bon, vu que c'est Charles Barkley en plus petit, enfin non, on voit que Charles Barkley devait faire la taille de Josh Hart.
Ouais,
faut
non,
bien
non,
se rendre compte, hein. Mais bon, bref. Ils sont un peu plus longs là sur les postes 3-4, ils les font chier et tout. Et en fait, c'est, ils les font chier parce que bah, Vassal, c'est pas un vrai 3 déjà au départ. Hmm. Tu vois et Champagny, allez, son vrai poste, ça serait plutôt 3 que 4.
Ah, bien sûr.
Et donc là, c'était un, j'ai trouvé ça intéressant et je trouve que ça a permis par moment d'arracher des petits rebonds. Alors en attaque, c'est pas forcément le truc le plus simple à jouer.
Ah,
mais
confirme.
En défense, une fois que la défense est bonne, ça a permis d'arracher des rebonds importants, ouais. quoi, un 5 un peu plus grand.
Tout à fait. On voit aussi, enfin, merci, potentiel ajustement de la part de Sean Sweeney et du staff défensif des Spurs. On va essayer de trapper haut l'ami Brunson.
Oui.
On va essayer.
Ah, ils
fort.
L'ont saoulé, hein. C'est bien.
Et quand tu trappes, attention, il faut faire confiance aux copains derrière parce qu'il faut que les rotations soient bonnes.
Ouais.
Mais donc, tu es dans la deuxième mi-temps où, merci, après avoir tiré les yeux fermés avec une main dans le slibard et l'autre... en mode horse, ça rentrait. Là, sur la deuxième mi-temps, les Knicks, ça rentre un peu moins.
Ça rentre moins. Il y a vraiment des énormes craquages physiques et athlétiques de part et d'autre, d'ailleurs. Mais ouais. côté Spurs, c'était assez incroyable parce que la circulation de balle des Knicks, il faut reconnaître qu'elle est très bonne.
Oui.
Pour aller chercher, pour faire des close-out, pour vraiment que les gars ne soient pas vraiment complètement ouverts et tout. Donc, de temps en temps, c'est tombé dedans. Mais tu as raison, en deuxième mi-temps, ça tombe un peu moins dedans.
J'allais te lancer sur un point dont on a parlé en off. Le fameux moment... où je pense que beaucoup en espèce de le 3 plus la faute
ah bah.
De Wemby.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a plus
7. Plus 7, il
plus
a alors...
7. Il
ouais.
y a 100 à 93. Et là, il y a. Ouais, c'est un des premiers. C'est pas le seul, mais c'est sûrement le plus gros tournant. Mais c'est le premier dans le sens où il reste plus de 7 minutes encore à jouer. Donc
ouais.
c'est vraiment encore. Un... Je veux dire, les Knicks sont à moins 7, mais personne n'est en train de se dire c'est bon pour les Spurs. Hein. Il y a 7
du
minutes
tout,
à jouer,
tout,
tu
tout,
vois.
Tout.
Et là, il y a effectivement Wemby, 3 plus 1, Mitchell Robinson qui lui tombe dans les jambes, faute. Donc le 3 est dedans.
Énorme
faute.
Clim. Hein. Ouais. Oh, le tir rentre.
Énorme clim.
Beaucoup
ça sert le point. Keldon Johnson qui le relève
Ils
et tout.
Ils vont passer à plus 11.
Sauf que Keldon Johnson, il n'avait pas fait que le relever. Il avait aussi poussé Mitch Robinson dans les papates de Wemby. Très bon challenge de Mike Brown.
J'ai plus le nom de l'assistant là, qui s'occupe de lire l'iPad à la vitesse de la lumière là,
bien,
côté
bien.
Knicks. Mais en effet, le challenge est après un challenge historique hein, sur le Game 2.
Ouais.
Sur le OG Anunoby shoot dans le corner. Encore un bon challenge remporté.
Il va en faire deux. Hein, dans le... Il
bien
y a
sûr,
deux excellents challenges dans le Money
Time. Tout à fait. Ils sont
enfin,
chauds
dans la fin.
Il
ouais,
a
ils
le
sont très chauds.
Hall of Famer. Et là, le 3 est annulé.
Faute offensive. Panier à 3 points annulé. Donc tu reviens à 7. Et dans la foulée, bim, Brunson qui score.
Ça trappe haut avec Wemby,
ouais,
il s'écarte, il y arrive et il va à l'arceau. Et là, à ce moment-là, Brunson est un des meilleurs pour finir.
Bah là,
plus
une fois
5.
Qu'il a passé l'épaule, qui sait que le grand de 2m25,
oui.
il est trop loin,
oui.
Là, c'est fini après. Hein.
Et là, pour moi, c'est un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Mitch Johnson prend temps mort. C'est-à-dire que au moment où il y a ce, plus 3, ce 3 plus 5 qui est annulé et Brunson met le panier, tu sens que le public des Knicks y croit. Et on stoppe tout de suite. Non, parce que Mitch Johnson, on l'a beaucoup critiqué aussi sur le début. Et à juste titre.
Pour l'instant, il se fait manger. Hein, mais...
Tout à fait. Mais à ce moment-là, j'ai dit, moi j'étais devant mon écran, Alex, j'ai dit merci Mitch. Hein, oui. Parce que là, quand c'est bien. Quand il y a un début d'ébullition, que tu vas mettre les pattes dans l'eau, là. Parce que les Knicks sont en train de chauffer et le public aussi. Là, il stoppe en disant, genre, déjà, on va calmer le public et on va installer quelque chose pour tout de suite refaire passer le lead à 7.
Oui, mais comment il fait repasser le lead à 7 avec un challenge sur le rebond?
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un rebond, il y a une bataille au rebond entre Charles-Antoine et Victor. Voilà. Et c'est Victor qui sort la balle et challenge. Parce que Victor demande tout de suite. Ça, moi, je suis toujours mitigé. On voit bien que le staff ne sait pas trop quoi faire. Ils font confiance aux joueurs. Je suis toujours mitigé avec ça, non pas que je crois pas les joueurs ou quoi, mais le joueur il est
Attends,
à chaud. Le joueur il est à chaud, il a toujours l'impression qu'on lui arrache le bras. Un joueur qui réclame pas la faute.
Qu'est-ce qu'il fait en NBA?
Qu'est-ce qu'il fait en sport? Ouais. Tu vois. Donc, après, ça reste un très bon challenge, parce que sinon il y avait remise en jeu Knicks +5, et là il y a eu deux lancers pour Wemby. Donc,
parce que
effectivement, on voit bien au ralenti que Wemby se fait tenir le bras par Karl Anthony Towns, qui est donc, il y a faute, donc ils sont dans le bonus, donc deux lancers, donc +7. Non mais, une vraie affaire de challenge à ce moment-là, il y a vraiment un tournant à coup de challenge.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça, on rentre dans ce ping-pong un petit peu, et c'est vrai que les Spurs gardent le lead. Moi, je me souviens à un moment de me dire « Oh là, il y a 108-100, on va voir ce que ça donne cette affaire avec quelques minutes à jouer. » Et Brunson commence aussi un peu à chauffer avec quelques paniers dont lui a le secret. Hein. On a quelques, notamment du rebond offensif N1, on a du drive avec Gortat Screen de Mitch Robinson.
Anunobi qui nous remet un petit jumper compliqué. Anunobi qui contre, c'est Harper en transition là, que Anunobi contre un moment.
Anunobi contre Harper, tout à fait. Mikal qui met son seul panier, c'est un des plus importants du match. Là, un petit mid-range justement à mi-distance, un peu décalé sur la droite. Pour rapprocher encore les Knicks. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me dis, putain, si ces Spurs-là peuvent pas remporter ce match où, quand t'es pas dedans, Brunson a des soucis de faute, et machin, et truc, et Wemby et Castle sont dedans, ça va être problématique. Et j'avoue, mea culpa, je pense que comme beaucoup de gens, quand tu vois le match au global de De'Aaron Fox, on a été beaucoup à regarder et à dire, putain, oh non, pitié, il a fait un gros game 2, mais est-ce qu'il va nous faire caca dans son slip, excusez-moi de l'expression, mais au finish. Quelque part, sur les 50 dernières secondes de la rencontre, c'est bien qu'un joueur comme lui ait été là.
Oui, c'est sûr, il a mis un gros panier, il a bien défendu. À un moment donné, il y a plusieurs contres de suite, les petits là qui viennent aider là pour pas que ça re-shoot. C'est lui hein, qui compte Karl Anthony Towns qui croyait qu'il remontait.
Ah là, c'est la salade
tout.
De brin. Là, y a
mais ça y va, ça défend. Bah, hein. Moi, j'aime bien hein. Harper, Castle, Fox qui viennent tous, ils mettent de leur qualité athlétique et tout. Avant ce gros panier mid-range trop clutch là de De'Aaron Fox, il y a quand même une attaque absolument dégueulasse des Spurs qui se finit par un 3 points de Castle.
Stephen Castle.
Quand même. Les Knicks sont là. Ils sont en train de revenir, ça recolle, ça pue. Très bonne défense des Knicks. On protège Brunson, on protège Kat, il n'y a pas de solution. Les Spurs, on sait qu'ils, on vient bien le voir pendant deux matchs, les deux premiers matchs, on sait qu'ils n'aiment pas ces situations-là. C'est un peu statique et tout. Castle, il se retrouve obligé de prendre, il
Shot
prend,
clock, ouais.
C'est dedans. Tu sais que ça.
Ah, ça fait
ça
mal.
Ça fait mal quand même aux Knicks.
Ça fait mal. Mais ce qui était marrant, c'est que ça fait très mal et ça pose une énorme clim. C'est peut-être le plus gros shoot du match. C'est vrai que. Vu le nombre d'Ave Maria qui était balancé en fin d'horloge par les Knicks, t'avais le sentiment sur le banc des Spurs que c'était enfin un petit truc qui va aussi dans notre sens, parce que le nombre de shoots d'une difficulté exceptionnelle qui sont rentrés par les Knicks non seulement sur le début de la série mais depuis quelques semaines, là c'était un petit peu le tour des Spurs et Castle rentre ce shoot mais énorme.
Et attention, derrière le shoot de Castle, il y a genre Oji Anunoby qui est clutch, ensuite il y a Brunson qui est clutch, ça revient à 3 points, ça revient à 3 points, ça revient à 111-108
une possession.
111-108, une possession. Et c'est là qu'effectivement, De'Aaron Fox, là, il va poser The Jumper.
Ah ouais.
The Jumper qui te met à 5, qu'oblige Knicks à faire faute, qui te met à 2 possessions. Enfin, ça change tout, ce genre de jumper.
Ouais, tout à fait.
Ça change tout. Il reste quoi 15 secondes.
Ça y est, c'est terminé.
Comme ça. Enfin, c'est pas terminé, mais quand le jumper tombe.
Ouais.
Quand déjà tu.
Plus 5,
dis donc. Oula.
Oui, parce qu'Anunobi est dans le corner et nous envoie un step back à 3 avec la planche. Allez-y, ça rentre.
Un mec qui reçoit la balle, il est dos au panier, il se retourne, il shoot.
Ça revient à -2.
N'importe quoi, c'est le shoot de Kawhi.
Tout à fait. Et c'est exactement ça. Ça revient à -2. et Stephen Cassel rentrent les deux lancers francs les plus importants de sa carrière. 2 sur 2 dans la fournaise du MSG.
Bien, bien, trop propre.
Énorme, énorme.
Sans trembler.
Pas d'erreur cette fois. Pas de passe dans le dos.
Non,
de toute façon. Pas de balle perdue.
Je veux dire, le match de Wemby est vraiment, je veux dire, on banalise. Hein. Et l'autre, il est en finale NBA, il arrive au Madison Square Garden, il a mis 32 points. Il y a
3 contre.
Ouais, à 60% au tir. Il y a 8 sur 9 au lancer, ce qui est propre au lancer. Tu ne peux pas faire faute sur lui. Hein. Il y a 6 passes d'aise. Enfin, c'est vraiment un très très grand match de Victor Wembanyama des deux côtés du terrain. Mais pardon, le match de Stephen Castle, c'est extraordinaire pour un garde. Ouais.
Tout à fait. Les deux meilleurs joueurs des Spurs font exactement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire élever leur niveau de jeu.
Il n'a perdu que 2 ballons,
Castle. Ouais, tout à fait.
Super.
Et donc 3 en cumulé avec Wemby. C'est vrai que Richard Jefferson, qui est désormais commentateur, excellent commentateur, le disait avant la rencontre, il disait les Spurs ont besoin d'un Victor qui est bon du début à la fin, pas un quart temps, pas une mi-temps.
C'est vrai.
Et c'est vrai que Victor, dès l'entame et jusqu'à la fin du match, il est là et il répond chaud, il va provoquer des lancers quand les Spurs sont dans le bonus et qu'il faut prendre des bonnes décisions. T'as raison, on peut pas banaliser. Le mec, là, il est au Madison Square Garden. Il est allé dessiner des statues la veille dans un le matin même dans un jardin
cool.
Pour se défaire le crâne. Il revient avec un 32-8-6-2-3 en étant clutch. Et certes, les pourcentages ont été compliqués sur les matchs précédents, mais l'animal, là, sur son début de finale NBA, en 3 matchs, il est à 30 points, 10 rebonds et 3 comptes de moyenne.
Non, non, il est là. Il est là et il a fait des erreurs. Il s'est chié un peu dessus dans le Money Time, notamment du Game 2. Hein,
ah,
on va
tu
pas se mentir.
Un peu.
Et c'est bien chié dessus. Il a raté son Money Time du Game 2 parce qu'il pourrait y avoir un partout en arrivant à New York. Hein, dans...
ouais.
Tu vois, autant le Game 1, bon, c'est un comeback chelou. Ils prennent un run de 11-0 et tout, mais le Game 2.
Ah oui, non, tu peux te porter les
doigts. Il y a vraiment les boules de ne pas le prendre.
Ouais.
Et là, ils font le boulot. Et ça se voyait d'ailleurs. Moi, j'ai bien aimé à la fin du match. Wemby rentre au vestiaire, il est comme ça. Castle et Harper, bras dessous, ça kiffe et tout, mais ils sont pas du tout en train d'exploser de joie
oh là,
du tout. Hein.
Oh là là là
non, non, ils sont, c'est ça, c'est bien. Hein.
Oui, oui,
pas
oui.
Du tout en train d'exploser de joie. Les mecs sont là, genre bon, maintenant faut prendre le game 4. Hein. Tu vois, genre.
Bon, il reste plus que 3.
Ouais. Ouais, ouais, non,
ça,
mais c'est,
ils sont impressionnants.
Ça fait plaisir à voir parce que. On est sur 3 matchs, on se régale bien en finale.
Ah, moi j'adore,
c'est cool.
Finales, vraiment, ça joue très
parce
physique.
Parce que bon, là les Knicks sont vraiment. Ils ont bien shooté et tout, et en même temps ils ont vraiment pas fait le match qu'il fallait parce que quasiment tous les moments clés, à part les challenges de McBrown qui ont été vraiment bien timés.
Ça va avantager ce point.
Sinon, Towns et Brunson, statistiquement, Brunson il score un pourcentage pas si dégueu, il va chercher des lancers et tout, c'est pas si dégueu. 11 sur 25, tu vois, c'est pas minable.
C'est un de ses meilleurs sur ce début de série, mais ça reste compliqué pour JB. Hein,
et surtout là, attention, parce que là vraiment, il y a eu un vrai ciblage de Jalen Brunson et il faut qu'il se prépare. Il va être ciblé tout le temps, ce qui n'avait pas bien été le cas lors des deux premiers matchs.
Absolument.
Et à mon avis, le plus gros reproche qu'on puisse faire aux Spurs avant même de choke les fins de match, le plus gros reproche qu'on puisse leur faire, c'est genre excuse-moi, Jalen Brunson est sur le terrain, t'attaques sur lui, point.
Moi, ça fait 2 semaines que je le répète. Hein. J'en pouvais plus. Sorti de Game 1, je me disais, mais les gars, le niveau des choix, qu'est-ce que c'est que ça? Le Game 2, c'était les vacances pour 4 sur pick and roll. Là, en effet, comme tu le dis bien, il y a des agressivités. De la part d'Ilan Harper, notamment sur...
Ouais.
Dylan Harper, sur la fin du troisième quart, quand il faut aller chercher des buckets,
ouais,
il a dit... Cornette, amène-moi 4 sur pick and roll.
Après, il faut saluer l'extraordinaire boulot de Mikal Bridges notamment et Anunobi pour switcher et lutter dans les écrans pour protéger leur capitaine. Franchement,
bien sûr.
Des soldats comme ça, t'en
bien
veux
sûr.
Tout le temps, hein, t'en veux... c'est
mais
trop
la...
bien.
Tout à fait, mais la stratégie des Spurs défensifs sur Brunson sur 3 matchs, elle est payante. C'est-à-dire que le mec, je l'ai tweeté ce matin, il a mis 82 points sur la série en 3 matchs. Donc
défensivement, il défend bien Brunson.
Mais il a mis 82 points en 81 tirs.
Faut l'attaquer. Oui, mais complètement. Il est bien défendu.
Il est hyper bien défendu. Et de l'autre côté, comme tu le dis bien, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer déjà parce qu'il va pouvoir y avoir des fautes faciles à les gratter. Parce que c'est un joueur que tu peux cibler défensivement. 5 fautes tiers. Donc forcément, il est un peu plus timide en défense.
Surtout, il sort tôt dans le quatrième.
Et il sort tôt. Donc ça
dans le troisième, pardon.
Exactement, ça dérègle les rotations. Et on a le premier non-match, ou en tout cas match vraiment moins bon de Karl-Anthony Towns hier soir.
Oui.
Parce que si tu regardes autour d'Enix. Josh Hart, il fait le boulot. Anunobi, il fait le boulot. Clarkson, Alvarado, c'est difficile de demander mieux.
Non, non, même Mitchell Robinson, ses entrées, elles sont tout à fait correctes.
Ça va. Celui qui est. Les deux qui passent un peu à côté, il y a Miles McBride qui a eu un impact zéro là, sur son entrée en 9 minutes. Et en effet, Mikal Bridges qui, comme tu le dis bien, s'il se donne à fond en défense, a été fantomatique en attaque. Il y a un seul shoot qui est rentré.
Ouais,
compliqué.
Ouais, très compliqué. Et par contre, c'est ça qui est intéressant et qui est entre guillemets, on le savait déjà avant la saison, ouais. Mais avant la série, pardon, qui est embêtant pour les Spurs, c'est que t'as beau extrêmement bien défendre Jalen Brunson, donc 82 points en 81 tirs, c'est de la super bonne défense. On en avait parlé avant la série. L'attaque des Knicks peut tenir la marée, même quand Brunson est extrêmement bien défendu.
Oui.
Et non seulement elle peut tenir la marée, mais en plus, tu n'es pas à l'abri, comme au Game 1 et comme au Game 2, de « Ah oui, Brunson n'a pas bien shooté, par contre, putain, le petit fadeaway qui fait mal, comment il a mis le couvercle l'autre hein ?» Il n'a pas bien shooté, mais il a mis le couvercle.
Ouais.
Donc là, c'est tout le problème de défendre ces Knicks, et c'est pour ça qu'il faut absolument, et c'est ça qui leur fait gagner le match 3 pour moi, de l'autre côté du terrain, il faut jouer beaucoup plus comme des tueurs. Faut arrêter le bring ball bull là, je sais pas quoi. Wemby, il doit pas porter la balle ou très peu. Et Castle, Harper, Fox, ça doit me jouer Brunson et ou Kat. S'il y a les deux dans le pick and roll, c'est parfait, hein. Tu vois, genre, mais vraiment, il faut genre, je dis pas que ça doit être binaire à ce point-là, mais presque.
Mais bien sûr.
Franchement,
dans
presque.
La...
Hein.
Mais
le mec est sur le terrain, il doit être dans l'action sur le porteur de balle de Jared Brunson.
Ah ouais. Il faudra que je revoie la preview, mais je crois que c'est quand on en parle dans le pronostic final là. Quand je disais notamment, parce que j'espérais, je touche encore du bois, hein, qu'il y a 4-3 Spurs, et on va voir, parce que peut-être la série va rebasculer côté New York, il y aura 3.
Oh
hein,
il peut se passer beaucoup
se passer
de choses.
Plein de choses ouais. Hein. Mais un des aspects que je trouvais important, c'est est-ce que les Spurs vont avoir la pertinence des choix sur plusieurs soirées pendant 48 minutes de se rendre compte que s'il y a Brunson et Kat, ce sont des joueurs ciblables. Ils l'ont très mal fait sur les deux premiers matchs, ils l'ont très bien fait hier soir. S'ils reproduisent ce schéma, attention à la suite de la série.
Non mais en fait le truc c'est exactement, il y a ça, attention à la suite de la série, et c'est genre, après je sais pas, moi je suis pas coach NBA, mais pour moi il y a vraiment un message clair. Vraiment la grosse amélioration où Embiid a très peu porté la balle, et c'est vraiment bien parce qu'en fait quand il porte la balle il peut pas aller aussi vite qu'un garde tout aussi athlétique et fluide qu'il soit.
Et Kat est bon en déplacement
et
aussi.
Et Kat exactement, c'est pas que là où tu le fais le plus chier, fais bien plus chier Kat s'il doit défendre Harper derrière un écran quoi, il est bien plus emmerdé, ça c'est évident. Et Brunson ne peut défendre ni Fox, ni Castle, ni Harper. C'est impossible pour Brunson. Alors les mecs plus grands et tout, mais même sans parler de mismatch, il ne peut pas défendre les mecs sur son poste. Il n'y arrive pas. Il est un peu juste, un peu en retard, et puis il a des responsabilités offensives tellement énormes. Donc,
t'as sorti ces trois noms. Le mec qui fait donner la cinquième faute, c'est Keldon Johnson. Hein. Keldon Johnson, il est arrivé en ligne de fond.
Oui.
Il dit balle. Il y a Brunson sur moi et il va lui provoquer des lancers. Alors il les rentre pas.
Non, mais tout à fait. T'as raison. Il a raison. Il demande la balle et il est servi. Mais là, quelque part, c'est presque une. C'est un cas un peu à côté de toutes les autres situations de jeu.
Oui, oui.
De temps en temps, il y a un mismatch. Et d'ailleurs, c'est même pas celui que je préfère. Tant mieux, Keldon Johnson, il a demandé la balle au poste sur Brunson. Mais moi, au poste, Keldon Johnson au poste sur Brunson, c'est même pas la situation que je préfère.
Ah oui, non,
je préfère
un
mille
drive,
fois
hein.
Brunson qui est en train de se fatiguer dans des écrans pour suivre Harper qui se balade balle en main. Et parce qu'il y a justement Keldon Johnson qui a posé un gros truc.
Tout à fait.
Tu vois, genre. Mais ouais, voilà.
En fait, je voulais juste souligner
oui,
que.
Oui, non, mais t'as raison.
C'est sur un drive notamment. Et dès le Game 1, on avait vu d'entrée Champagny qui allait au drive sur Jalen Brunson. Donc, évidemment, t'as raison, les trois premiers mecs qui doivent punir, c'est Harper, Fox,
Castle. C'est ceux qui sont naturellement.
Plus enclins à avoir.
Ils essayent de le planquer ou sur Vassell, mais tu vois, c'est compliqué.
Ouais, c'est très très dur. Dès qu'il y a Brunson sur le terrain, les gars, il y a un gyrophare. On y va. C'est ce qui s'était passé.
Faut lui faire des fautes.
Le dernier homme à avoir très bien fait ça, ouais. C'est CJ McCollum.
Ouais. Faut lui faire des fautes, faut essayer de le fatiguer au maximum pour qu'il ait moins d'énergie possible en attaque, parce que toi de l'autre côté en défense tu défends dur sur lui. Ouais. Et d'ailleurs là, ce que les Knicks par exemple pour parler aussi des Knicks, tu vois, qui viennent de perdre un match depuis 13 matchs, un truc qu'ils n'ont pas bien réussi à faire, même si je l'ai dit tout à l'heure, Mikal Bridges et OG Anunoby notamment, faut vraiment des efforts colossaux pour suivre dans les écrans, éviter les switches et protéger au mieux Brunson principalement et un peu Towns. Y a un truc que les Knicks ont moins bien réussi à faire, c'est que je trouve que la pression à l'extérieur, ils ont appliqué une pression à Castle notamment et à Fox plus haute et mieux ordonnée. Hier, finalement à la maison, j'ai trouvé que Castle avait un peu plus de place pour opérer, pour monter la balle et tout. Il avait moins la pression. Et d'ailleurs, il perd très peu de ballons les Spurs hier. Et pourtant, s'il y a bien un sujet, un terrain dans lequel la défense des Knicks avec ses ailiers un peu longs, ses mecs agressifs peut saouler les jeunes Spurs, c'est sur les pertes de balles, je trouve. Et là, hier, bizarrement, à la maison, on n'a pas trouvé cette intensité côté Knicks. Et ils vont pas pouvoir, à moins de faire un match où tout le monde est en feu au tir. Mais là, voilà, Towns est pas en feu, Bridges est trop timide, et tu finis par craquer un peu
tout
et perdre.
Fait. C'est ça, les Spurs le savent. Tu ne dois pas rentrer dans un match de jump shooter avec ces Knicks. Mais les Knicks doivent le comprendre, comme le dit Alex. Il faut élever le niveau défensif, parce que s'il y a un trop gros écart dans les intensités et les applications défensives de côté, c'est nettement à l'avantage des Spurs.
Ouais, et puis tu peux faire des erreurs à ces jeunes Spurs. Tu peux forcer la balle à Wemby, mais loin. Tu peux, tu vois, par exemple, je trouve que Wemby a pu beaucoup trop rouler facilement. Il y a plein de trucs à réfléchir. C'est Wemby qui roule et qui se fait servir en l'air sous le cercle. Genre, personne peut défendre. C'est impossible.
C'est
genre je sais pas, même
non tout ce
même
que tu veux,
Mutombo
même Anthony
Davis, et tout, ils auraient ils pourraient rien faire.
Tout à fait. Game 4 mercredi, si je dis pas de bêtises,
dans la nuit de mercredi à jeudi, ouais.
Tout à fait. Pas de président, pas de machin, pas de truc, etc. Tout un autre match, on va voir ce que ça donne. Je te tends la perche. Alex, on rentre à 3-1 San Antonio ou à 2-2?
Je dirais bien 3-1. 3-1. Ouais, c'est ça, ouais. 3-1 là-bas, 3-2, et hop, ça revient finir à New York. Ça, c'est propre. Selon mon pronostic, hein, bien sûr. Ouais, je pense que malgré tout ce qu'on vient de dire sur le très bon match des Spurs et les passages un peu ratés des Knicks, bah, y a que 4 points d'écart. À la fin, les Knicks ont tout le temps été dans le match, hein, quasiment tout le temps. Et ils ont tout le temps été dans le match, alors que, tu vois, faut aussi voir le côté vert à moitié plein pour les Knicks. Towns fait vraiment pas un bon match, il se rate sur pas mal de trucs. Michael Bridges trop timide et Brunson très bien défendu, tu perds que de 4. Ah, dis donc. Avec des Spurs qui ont perdu, combien ils ont perdu de ballon? 6
8.
8.
Contre les 13 pertes de balles des Knicks.
Tu vois, genre 13 pertes de balles, c'est un peu trop, mais ça va. Et 8, c'est vraiment pas beaucoup pour les Spurs.
En fait, tu peux le regarder comme ça, en effet, et te dire aussi que est-ce que Josh Hart et OG Anunoby vont pouvoir refaire le même match?
Josh Hart, peut-être. Anunoby, je demande vraiment à voir. Il a déjà fait une fois, Josh Hart. Hein,
c'est que Josh Hart, 4 sur 7 à 3 points.
Oui,
voilà.
Oui, mais Anunoby, il met 30 points, non?
Oui, il met 28 points, ouais, en détente. à 70% au tir. On rentre à 2-2. On rentre à 2-2, Alex, on rentre à 2-2. On y va, je porterai ce t-shirt, on rentre à 2-2, c'est parti. Et je pense que ces Spurs-là ont compris ce sur quoi ils devaient punir ces Knicks en attaque, et qu'ils ont
exécuté.
Exactement exécuté, et qu'ils ont, ils ont toutes les armes défensives pour pouvoir tenir dans la série. Ils se sont prouvés qu'ils étaient capables de le faire une fois, ils peuvent le faire une deuxième. Encore une fois, je sais, hein, c'est le premier run de ces jeunes Spurs là en playoff, mais au secours, l'XP qu'ils sont en train de gagner pour la suite.
Bien sûr.
Je dirais, les mecs, ils ont gagné ce game 3 hier là, dans la folie de.
Ouais, et puis genre là, les finales sont loin, oui, d'être finies. Je veux dire, bon, t'as perdu les deux premiers à la maison, bien sûr, c'est très très mauvais. Mais là, t'as repris le 3 tout de suite, donc maintenant. Genre, le game 4 est un tournant potentiel, le game 5 est un tournant, enfin, et ainsi de suite, ouais, quoi.
Ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Dites-nous, vous, ce que vous pensez évidemment de ce Game 3 qui a eu lieu hier. Ce que vous pensez du match qui aura lieu mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi. Car oui, on retournera bien à San Antonio samedi soir, le 13 juin, pour le Game 5. Qui sera quoi? Un match à 2-2 ou un match de potentiel titre de champion NBA pour ces Knicks? Ça y est, on commence à... Là, ça y est, les phrases commencent à être réelles. Ça rigole pas. Autre chose à ajouter, on est bon?
Non, on est bon.
Et eh bien écoute, pour finir juste en très simple, hein, pendant qu'Alex dit au revoir.
Ah oui, tiens.
Vous n'oubliez pas de vous procurer ces deux merveilles qui sont disponibles dès maintenant. Je vais vous mettre les liens en premier commentaire de cette vidéo.
Le cahier de jeu et l'agenda.
Le cahier de jeu et l'agenda. Si vous voulez préparer la rentrée prochaine ou bien passer un bête d'été, eh bien c'est disponible. On vous met tout ça en lien.
Ça se trouve sur le site de la FNAC ou des choses
comme
ça.
Ouais, je vous le montre en speed. Là, c'est littéralement sur le site de la FNAC. Vous avez l'agenda qui est juste ici. Et vous avez le cahier de jeu. Voilà, ça pourra peut-être en amuser certains. On fait des gros bisous. On vous attend en commentaire.
Ciao.
Et on se retrouve très vite pour le débrief du Game 4.
Ciao tout le monde.